Rome, capitale de l'Italie, la chose n'a pas toujours été une évidence. L'unité italienne se réalise autour de la monarchie piémontaise et affronte rapidement un obstacle de taille à son achèvement, les États pontificaux. En 1870, il ne concerne plus que Rome et ses environs. Des négociations ont lieu avec la ligne définie par Cavour d'une liberté absolue pour l'Église dans le cadre d'un État unifié. Elles échouent en 1861. Le pape Pie IX se montre un moment ouvert avant de s'attacher farouchement à son pouvoir temporel, comme nous l'explique l'historien Pierre Milza.
Dans les années 46-47, a été incontestablement un pape réformateur. Réformateur dans ses propres États et a laissé penser donc aux libéraux, aux républicains, aux démocrates italiens qu'il y aurait peut-être une possibilité de s'entendre à propos de Rome. Mais c'était hors de question. Pour lui, c'était la capitale de la chrétienté. Il n'est pas question qu'à aucun moment que Rome soit abandonnée aux francs-maçons et aux révolutionnaires.
Le gouvernement italien ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il transfère d'abord sa capitale de Turin à Florence. Sa diplomatie hésitera toujours entre un coup de force et une solution négociée pour s'emparer de Rome.
Le gouvernement piémontais, il faut bien dire, menait une politique assez ambiguë, en tout cas, qui n'était pas univoque, à savoir, on laissait faire, en gros, Garibaldi jusqu'au moment où la menace de crise internationale devenait trop forte, et à partir de là, on l'arrêtait, hein, ce qui était le cas notamment à Mentana en 1867. Donc un peu de double jeu de la part du gouvernement piémontais qui faisait qu'il ne pouvait rien se passer.
Mais le sort de Rome, capitale de l'Italie, est dans les mains de la France. Napoléon III, par son intervention en 1859 contre l'Autriche, a permis l'unité de la péninsule. Il se pose désormais en garant des intérêts du pape à Rome en y maintenant des troupes françaises.
C'est la France et l'Autriche d'une certaine manière, puisque l'Autriche est une grande puissance catholique, moins que la France, parce qu'il n'y a pas que des catholiques dans l'Empire autrichien. C'est donc essentiellement la France. La France qui s'est engagée après 1866, qu'elle ne permettrait pas une intervention piémontaise, et effectivement tout dépendait de Napoléon III. Or Napoléon III ne pouvait pas, bien sûr après il a bien été obligé de le faire, du moins la France a bien été obligée de le faire, mais il ne pouvait pas reculer sur Rome du fait de sa politique intérieure. Il avait trop besoin d'une opinion publique dans laquelle les catholiques jouent un rôle important, enfin une majorité violemment opposée à cette installation des Piémontais à Rome. Il était tenu par sa politique intérieure, il était tenu par son opinion publique, il était tenu par les catholiques et il ne pouvait pas. Il aurait souhaité visiblement régler ce problème. Pour lui, c'est quand même resté une affaire, l'affaire italienne qui n'était pas complètement réglée. Hein, d'accord, grâce à lui, l'Italie avait hérité de la Lombardie. D'accord, grâce à ses accords avec Bismarck, elle avait hérité de la Vénétie. Mais il restait, cette zone, Rome, son entourage immédiat, qui restait entre les mains du souverain pontife. Et il ne pouvait rien faire, et il aurait bien aimé faire quelque chose. Donc il n'y avait aucune possibilité de régler cette question autrement que soit par la décision de Napoléon III, qui risquait à ce moment-là une guerre avec l'Autriche, autre puissance catholique, ou bien l'emploi de la force, et ça s'est terminé finalement par l'emploi de la force.
La voie diplomatique trop incertaine laisse place à l'option militaire. Sous la pression de Garibaldi et Mazzini, les tentatives d'action forte se multiplient, mais se soldent toutes par un échec. C'est la guerre franco-allemande qui va débloquer la situation. En août 1870, les soldats français quittent Rome. Le 4 septembre, la République est proclamée à Paris. Les troupes italiennes, sous la direction du général Cadorna, se massent alors près de la ville éternelle. 50 000 hommes font face aux 15 000 soldats pontificaux de diverses nationalités. Après 3 jours d'attente d'une hypothétique reddition, le matin du 20 septembre 1870, vers 9h, l'artillerie italienne ouvre une brèche d'une trentaine de mètres dans les murs de la ville à proximité de la Porta Pia. Elle permet à 2 bataillons, dont un de Bersaglieri, d'occuper la ville. La résistance pontificale n'aura été que symbolique.
Le souverain pontife a demandé que ça ne dure pas trop longtemps. Il fallait que symboliquement il puisse avancer ensuite, qu'il serait prisonnier dans la capitale du royaume mécréant. C'est pour ça qu'il y a quand même eu une résistance, mais cette résistance a été très faible.
Le rattachement de de Rome à l'Italie est approuvé dans la foulée par un plébiscite et le 1er juillet 1871, le Parlement italien la proclame officiellement capitale du royaume.
Plus personne ne pense, enfin plus personne, en tout cas dans le milieu diplomatique, après 1870 qu'on reviendra sur cette question. Si, dans les partis cléricaux et en France notamment, il y a des gens qui disent il y a toute une littérature finalement pour condamner l'occupation de Rome par les Italiens, par les Piémontais, mais c'est uniquement à ce moment-là une minorité.
C'est le début de la question romaine qui ne prendra fin qu'en 1929 avec la signature des accords du Latran.